Bon, les camps de jour dans les villes, on a compris hier que c'était donc la. Ça va ouvrir, que même les moniteurs vont être vaccinés en priorité. Et la question se posait pour ce qui est des camps, les fameux camps de vacances, quand les jeunes partent pour une semaine, deux semaines. C'était assez flou hier après-midi, là, pour essayer de voir est-ce que. Parce que. Ils partent, donc ils couchent là, il y a plus de proximité. Éric Beauchemin est le directeur général de l'Association des camps du Québec. Monsieur Beauchemin, bonjour.
Bonjour.
Bon, les parents qui vous écoutent ce matin veulent savoir une chose, est-ce qu'il y aura des camps de vacances cet été?
Bien, effectivement, hier, on a entendu l'accès à la vaccination potentielle pour les moniteurs de camps de vacances. Et hier soir, dans ma boîte courriel, je ne reçois pas ça souvent, un courriel de Horacio Arruda qui nous confirme le feu vert à l'opération des camps de vacances. Donc, les camps avec hébergement seront autorisés à opérer cet été. C'est une excellente nouvelle.
Bon, mais je comprends que c'est une bonne nouvelle. Puis j'imagine que vous étiez déjà prêt, là, que le protocole avait été établi.
En fait, ça fait deux mois et demi, nous, qu'on est en échange, je vous dirais, dialogue, soutenu même avec la direction de la santé publique, parce que, oui, c'est compliqué, les milieux sont pas tous pareils, il y avait plusieurs restrictions, on a scénarisé plusieurs façons d'accueillir des jeunes dans les contextes de camps de vacances avec hébergement, mais là, on y est. La vaccination est un des atouts qui nous permet d'ajouter des filets, je pense, protecteurs au fait qu'on veut pas que le virus rentre sur les sites de camps.
Et donnez-moi peut-être un exemple de ces mesures-là. Puis là, je suis un parent, je me dis, est-ce que ça veut dire qu'il y aura moins d'enfants par camp cette année? Est-ce qu'il y a des activités qu'on est obligé de laisser tomber? Comment ça va fonctionner?
Écoutez, moins d'enfants, ça va dépendre vraiment des sites géographiques de chacun des camps. Parce que sinon, les ratios d'encadrement demeurent les mêmes. On vit dans la bulle même avec son animateur qui sans être masqué. C'est au contact d'autres groupes en plein air que là, il y aura des mesures de distanciation qui seront mises en place. Mais sinon, la vie de camp de vacances cet été pour des enfants, ça pourrait être les meilleures vacances qui soient si le virus ne fait pas son entrée sur les sites de camp. Parce que pour le reste, on va aller en évertisse, on va aller en escalade. Il y aura des horaires différents à la cafétéria. Par ailleurs, ça amène certaines restrictions dans l'organisation pour les camps. Exemple, le personnel d'animation. Bien, ils peuvent, eux autres, il faut qu'ils vivent dans un contexte où, au niveau de l'hébergement, ils vont être davantage séparés. Les groupes bulles, comprenez que s'il y a une éclosion, on retourne la bulle à la maison. Il faut tenir les bulles les plus petites possibles pour faire face à une éventuelle situation comme celle-là. Donc, c'est sûr que là, il y a des réaménagements d'espaces sanitaires, d'espaces d'hébergement qui sont en cours dans les camps. Mais là, aujourd'hui, on a loqué d'aller jusqu'au bout de la préparation de ça.
Merveilleux. Bonne nouvelle. Il y a bien des parents qui vont être contents, puis surtout des enfants qui, évidemment, ont hâte de retrouver leur camp. Merci, M. Beauchemin.
Puis il faudra qu'on ait un soutien pour faire tout ça, évidemment. Ouais. Comme on l'a eu, puis la ministre Charest nous a déjà annoncé qu'elle sera au rendez-vous. On l'attend à ce rendez-vous-là.
Parfait. Merci, M. Beauchemin.
Merci, au revoir.
Au revoir. Éric Beauchemin, directeur général de l'Association des camps du Québec. Alors, ça s'est réglé hier soir. C'était un peu en flottement, mais quand même une excellente nouvelle. On va parler avec Sabrina maintenant concernant d'abord un incendie d'origine criminelle sur le plateau Mont-Royal.
Et c'est un commerce à l'intersection de l'avenue Papineau et de la rue Marianne qui a été la cible d'un incendie criminel. C'est un salon de coiffure, le Barbispa. Alors, il y avait des traces d'introduction par infraction. L'incendie qui a débuté vers 2h55 cette nuit. Et ce qu'on m'a dit, donc selon mes informations, c'est que les services d'urgence ont vu qu'il y avait une fenêtre de fracassée. Alors, les flammes qui ont été maîtrisées quand même heureusement assez rapidement, mais les dommages qui sont assez considérables. Je suis allée faire un tour un petit peu plus tôt ce matin et j'ai pu constater là, que, bon, évidemment, il y a cette vitrine qui a été fracassée, là, mais beaucoup de détritus là, qui ont été mis à l'extérieur. Il y a donc des enquêteurs du SPVM qui vont se déplacer aujourd'hui. Pour ce qui est des entraves à la circulation, bien, il n'y en a plus. L'avenue Papineau s'est rouverte dans les deux directions. Il y a seulement une petite portion là, de la rue Marianne qui est fermée pour les automobilistes. Mais quand même dire qu'il y a eu deux incendies criminels en 48 heures à peine, et ça, c'est le troisième dans le fond, qui survient depuis 48 heures. Les deux autres, le premier, c'était mercredi soir dans une garderie de Pierrefonds. Et l'autre, c'était hier matin dans un spa hammam dans Saint-Léonard sur le boulevard Provencher. Alors, les policiers, évidemment, qui vont tenter de regarder s'il n'y a pas des similitudes entre ces incendies, si c'est relié. Mais pour l'instant, là, on ne parle pas de ça pour l'instant.
Parlons du procès de Benoît Cardinal. Il est accusé du meurtre de sa femme. Le jury, donc, amorce ses délibérations, ce qui fait que des éléments qui ont été cachés aux membres du jury sont maintenant rendus publics et on apprend que Cardinal fait l'objet d'allégations d'agressions sexuelles sur des jeunes filles.
c'est qu'il aurait agressé sexuellement au moins 9 adolescentes. Et d'ailleurs, une enquête qui est menée par le service de police de Laval. On parle notamment de relations sexuelles complètes avec au moins une jeune fille, des attouchements, mais aussi des caresses et des bisous. Et les présumées victimes ont toutes été hébergées à l'endroit où l'éducateur de 35 ans travaillait. Parce que, faut le dire, les jurés savent en fait que Benoît Cardinal avait quitté son emploi dans un centre jeunesse de Laval quelque temps avant le meurtre de sa conjointe Jaël Quentin. Mais il ne savait pas pourquoi. Et là, on a pu apprendre que l'accusé, qui est à l'emploi du centre jeunesse de Laval, avait en fait perdu son travail en raison de ces allégations d'agression sexuelle. Et pourquoi, en fait, on ne l'a pas dit aux membres du jury? Parce que c'est quand même une information qui est importante relativement à Benoît Cardinal. Eh bien, c'est la juge, avant même que le procès débute, qui avait décidé qu'aucun détail provenant de cette enquête ne serait divulgué aux membres du jury pour ne pas que cela porte préjudice à l'accusé Benoît Cardinal, parce que ce ne sont que des allégations encore, pas été reconnues coupables, ni d'accusations qui ont été déposées dans ce dossier-là. Et d'ailleurs, il y a une des adolescentes qui a témoigné pendant le procès qui aurait eu des relations sexuelles avec Benoît Cardinal. Elle l'a mentionné à la police, mais bien entendu, ces parties n'ont pas été entendues par les membres du jury. Ça a été caviardé. Alors là, maintenant, ben, les jurés qui sont séquestrés depuis hier, ils vont devoir décider si Benoît Cardinal sera reconnu coupable ou non du meurtre prémédité de sa conjointe Jaël Quentin qui est survenu en janvier 2020.
Merci. 8h exactement. Alors, on va aller voir ce qui se passe sur le réseau routier. Guylaine, ça ressemble à quoi à cette heure-ci?